tous les temps, par qui tu tiens en vie toutes tes créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur l'eau, fort utile, humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui s'illumine la nuit, et qui est beau, joyeux, et invincible, et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous nourrit et nous soutient, et qui produit les fruits d'hiver, et les fleurs colorées, et l'herbe. Loué, bénissez, mon Seigneur, rendez-lui grâce, servez-le tous en toute humilité. Son travail achevé, François se montra sans aucune fausse modestie enchanté de son poème. Il appela ses frères et sœurs Claires pour leur lire, et mieux encore pour le leur chanter sur une mélodie de son invention. Que ne donnerions-nous pas pour l'avoir ? Retrouva-t-il sa jolie voix de jadis ? En tout cas, il décida que les frères le chanteraient chaque jour, et lui-même matin et soir, grisé par la certitude qu'il avait donné au monde un chef-d'œuvre. Il en était tellement sûr qu'il demanda aux frères mineurs de faire entendre partout ce chant d'admiration éperdue pour la beauté du monde de Dieu. De nos jours, le plus beau commentaire de ce cantique de joie est une œuvre encore trop peu connue de la jeunesse de Stockhausen. Dans une musique fluide et douce, on entend de temps à autre des voix de jeunes garçons, claires et joyeuses, qui ne disent qu'un ou deux mots, pluie, feu, neige, comme dans un jeu. On a l'impression qu'ils se promènent le long de cascades rafraîchissantes et qu'ils rient de bonheur. Parfois, un assez long espace de temps s'écoule et des airs s'ensuivent, mais d'une harmonie délicate, ruisselle, impalpable comme le vent. Et soudain se distingue le mot soleil ou lune ou étoile ou fleur, comme des cris sortant de bouches enfantines. Ces enfants qu'on fait descendre dans un enfer s'y débattent comme dans un nouveau paradis perdu. Le corps, voilà l'ennemi. Cette phrase, les frères l'entendaient parfois de la bouche de François. À nous, tout au bout du XXe siècle, elle semble monstrueuse. Mais retournons un instant dans ce XIIIe siècle afin d'essayer de comprendre le Poverello. Selon lui, comme selon beaucoup d'hommes de son temps, le corps était à l'origine des péchés de la chair. Harrons donc sur le corps et réduisons-le à la raison par la pénitence et les mortifications, même les plus violentes. Il faut le battre. Ici, pourtant, François trace une limite et refuse la barbare discipline qui a duré jusqu'à nos jours. Pour calmer cet énergumène, le corps qui a partie liée avec le mauvais et mène l'homme à sa perte, il préconise la plongée dans l'eau glacée quelle que soit la saison. Le jeûne fera le reste. Moyen efficace. Ce qui nous trouble dans cette solution du problème sexuel, c'est qu'elle est plus manichéenne que chrétienne. L'espèce de malédiction sur la chair est déplaisante. Elle la sépare de l'âme. Mauvais désirs, adultère, fornication, meurtre viennent du cœur, dit le Christ. Et cœur, dans le langage sémitique, désigne souvent la partie pensante de l'individu. À quoi bon taper sur les épaules et le reste quand le vrai responsable est ailleurs? François avait-il respiré l'hérésie cathare comme toute son époque? À San Damiano, dans sa chambre obscure, il souffrait au point que l'on envisageait de lui administrer des calmants, sans doute de la poudre de pavot. Mais un scrupule lui vint. Avait-il le droit de refuser la souffrance? Il résolut de demander conseil à un frère qui venait le soigner et qui avait son franc-parler. « Que penses-tu des soins que je donne à mon corps? Ne suis-je pas trop indulgent parce qu'il est malade ?» Ce frère, qui vient droit du XXe siècle, ne se gêne pas pour le secouer et lui parler comme il faut. « Père, est-ce que ton corps ne t'a pas fidèlement obéi ?» François reconnaît que son corps s'est toujours montré d'une obéissance exemplaire. « Je dois lui rendre ce témoignage. » Alors où